Sel. Au moins trois personnes m'ont demandé « Tu manges ici ?» Comme si je n'avais pas le droit de manger puisque je n'étais pas au culte. Mais on vous a dit, hein, vous servez le repas, on arrive, on sera là. Est-ce que vous pouvez trouver Colossiens chapitre 1 ? Je vais lire deux versets ici. Le titre de cette méditation, c'est « Pourquoi un catéchisme ?» J'espère un peu nous inspirer. On parlait avec les pasteurs, les trois pasteurs, les quatre pasteurs en fait ensemble hier. Et nous sommes très heureux d'avoir cet outil disponible pour nos familles et pour nos membres. Mais à la fin de ce chapitre, Colossiens 1, verset 28... Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, nous annonçons Christ, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le verbe catéchiser veut dire instruire oralement. En fait, ça vient d'un mot grec, catéchoumenos, qui veut dire littéralement faire retentir aux oreilles. D'où l'idée de instruire à vive voix. Et dans la tradition chrétienne, les catéchumènes étaient ces personnes à qui on instruisait, donc oralement, la foi et la Bible pour qu'ils comprennent mieux l'Évangile. C'est une tradition qui trouve ses sources dans le Nouveau Testament. Il y a l'exemple de Paul qui dit que j'enseigne publiquement et dans toutes les maisons. Et ce mot même a été utilisé très tôt par les églises chrétiennes, même au deuxième siècle on retrouve. Donc nous sommes loin avant même le début de ce qu'on appelle l'église catholique romaine. Et on catéchisait donc ces nouveaux convertis, on les apprenait, on les enseignait oralement. Pour qu'ils comprennent mieux la foi. Alors, à quoi bon ça sert d'avoir des questions? Aujourd'hui, souvent, les catéchismes ont pris la forme de questions et puis de réponses que nous mémorisons. Et aujourd'hui, c'est moins commun, mais si on reculait en arrière 200 ans, presque toutes les églises baptistes le faisaient, ainsi que toutes les églises, en fait, des autres dénominations protestantes le faisaient. Chaque église avait son propre catéchisme, mais on enseignait surtout aux enfants la foi, pour qu'ils puissent retenir la foi, par le biais de questions et de réponses qu'ils mémorisaient. Et c'est par la suite, il y a eu, donc au 19e siècle, il y a eu un grand effort d'évangélisation auprès des enfants de la rue, surtout. Et ça, on appelait à l'époque l'école de dimanche. Donc on avait le catéchisme pour les enfants des croyants dans l'église, mais souvent, surtout c'était le dimanche après-midi, on faisait ce qu'on appelait une école de dimanche. Et l'école de dimanche était destinée principalement aux enfants de la rue, c'est-à-dire les non-chrétiens, comme nous on dirait d'aujourd'hui, comme un club biblique. Et donc les églises avaient souvent les deux. Et puis petit à petit, c'est l'école du dimanche qui est revenue, si on veut dire, dans l'église et qui a été plus de nos jours destinée aux enfants des croyants. On le fait souvent même pendant le culte. Et ça a pris la place même de ces temps de catéchisme. Ça c'est un peu l'histoire telle qu'elle existe surtout dans les églises baptistes. Mais avec ces questions et ces réponses, il y a plusieurs on va dire, raison pour le faire. D'abord, c'est la question de pouvoir retenir ces vérités. J'avais un professeur, vous l'avez peut-être entendu aussi, mais qui nous disait souvent, il y a trois règles d'un bon enseignement. Répéter, répéter, répéter. C'est ça les trois règles, il disait. Et il le répétait souvent, en fait. Et nous savons que le fait de répéter les choses, surtout aux jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, nous aide à pouvoir le retenir et mieux le comprendre. On comprend une chose, on entend une chose une fois, on le saisit rarement la première fois. Il faut que ces choses soient répétées. Il y a aussi la question de systématiser, c'est-à-dire d'arranger les pensées, de pouvoir mieux comprendre quelle est, par exemple, la justification par la foi. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec quelqu'un qui a assisté dans notre église ici, à Saint-Denis, pendant plus de 8 ans. Je demandais à la personne, comment est-ce que l'homme est justifié devant Dieu? Et la personne n'avait pas de réponse. Et en discutant, j'ai réalisé que cette personne, en fait, ne comprenait pas les béaba de ce qu'est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Est-ce que vous avez une réponse, même, à ce qu'est l'Évangile? Est-ce que nos enfants qui grandissent dans nos maisons, est-ce qu'ils savent ce que c'est l'inspiration de la parole? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la Trinité? Qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce qu'il est prophète, roi et prêtre? Pourquoi? Est-ce que nous comprenons ces vérités fondamentales de la Bible? C'est d'ailleurs le nom qu'on a donné donc à ce catéchisme, les vérités fondamentales que nous voulons apprendre. Alors, est-ce que vous pouvez trouver en 2 Timothée, je vais vous montrer quelques références dans cette lettre. Et aussi, troisièmement, je n'ai pas mentionné, la question d'efficacité. Quand vous témoignez et vous voulez parler de la parole de Dieu, si vous avez une définition de toute faite de ce qu'est la parole de Dieu, et vous avez plusieurs références que vous avez mémorisées, ou de qui est Jésus-Christ, ça va vous rendre plus efficace à utiliser la parole de Dieu avec d'autres. Mais en 2 Timothée chapitre 1, versets 13 et 14, l'apôtre dit à Timothée, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Donc il y a un modèle de saines paroles qui doit retenir. Il dit, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Il y a quelque chose à garder, vous voyez? Il faut garder ce modèle de saine parole. Puis regardez le chapitre 3. Il parle encore à Timothée, c'est le verset 14. Et il dit, « Toi, 2 Timothée 3, 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Tu as pris des choses, tu les as reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais il dit, revenez au verset 14, c'est des choses que tu as apprises dès ton enfance. Est-ce que ça veut dire simplement qu'il avait mémorisé toute la Bible? Et puis il dit, regardez la fin du verset 14, sachant de qui tu les as apprises. Alors ça, c'est qui? Timothée les avait appris de qui ? Voilà, il y a dans un sens Paul lui-même, hein, il dit le modèle que vous avez reçu de moi, mais quand il dit que dès ton enfance tu savais, Paul ne le connaissait pas dans son enfance. Regardez le chapitre 1 et le verset 5, donc vous reculez un peu, ça va nous donner la réponse que vous avez déjà donnée. 2 Timothée 1, 5, gardons le souvenir de ta foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, donc ta grand-mère probablement et ta mère, et qui, j'en suis persuadé, aussi habite en toi. Donc Timothée avait appris, il a connu les Saintes Écritures par le biais de deux femmes dans sa vie. Sa mère et sa grand-mère. Son père n'était pas croyant. Mais grâce à sa mère et à sa mamie, il avait été instruit dans les choses de l'Éternel. Alors je demande à nos familles, où il y a un père et une mère, est-ce qu'on fait autant que ces dames faisaient? Il y a des pères qui m'ont dit, j'ai pas de discussion spirituelle avec mes enfants. Deux femmes dans une situation difficile, une maison divisée dans la foi, un père qui n'est pas chrétien, et elles apprenaient à leur enfant. Et le catéchisme, c'est pour vous donner des outils, en fait, à, entre autres, hein, aux parents, aux mères, aux grands-mères, d'apprendre ces choses à vos enfants. Je vous lis, ne cherchez pas, Deutéronome 6, versets 6 à 9. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, mais tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est l'engagement que dans tous nos foyers, il y a la discussion des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Quand on se lève, quand on se couche, dans la voiture, dans toutes les circonstances. Et nous désirons, je crois, si vous êtes un parent chrétien, vous désirez tous les outils possibles pour pouvoir en parler de Dieu et de sa parole. Et nous avons ce commandement que Christ nous a donné en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, quoi ? Enseignez-leur. Ça, c'est un commandement, autant que faire des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Est-ce que vous êtes engagé à observer ce commandement, de faire observer ceux qui vous entourent ? Et donc le catéchisme devient un outil pour nous aider à faire des disciples. Alors pour revenir en Colossiens 1, là je m'adresse encore aux parents, avez-vous cette passion pour vos enfants ? Les pères ici, est-ce que vous pouvez dire, c'est Christ que nous annonçons, exhortant chaque enfant et instruisant chaque enfant en toute sagesse, afin de présenter chacun de mes enfants devenus parfaits en Christ. Et je sais que je ne peux pas le faire mais en moi-même, mais c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je vous assure que pour faire cela dans la maison, c'est un combat. Ce n'est pas naturel. Même si on a eu des parents chrétiens, nous-mêmes, ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile. C'est un combat. Et je vous dirai quelque chose d'autre aussi, on n'a pas la force en nous-mêmes de le faire. Personne ici. Il ne faut pas regarder quelqu'un d'autre, mais lui, il peut le faire, je connais ce... Non, non, personne n'a la force. Si on va le faire, c'est avec la force qui agit puissamment en nous. Et ça, c'est une force qui est disponible à chaque personne. Même les familles monoparentales. Et donc la vérité est là pour nous transformer, pour nous aider. Parce qu'il faut, extraire du passage le point capital de ces versets. On veut plus que nous-mêmes et nos enfants puissent réciter un verset, c'est bien. Mais quand j'étais jeune, mes grands-parents avaient un perroquet. Et le perroquet citait souvent Jean 3,16. C'est mon père qui lui avait appris ça. Il disait « For God so loved the world » en anglais. « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ah, c'est beau d'entendre un perroquet qui dit cela. Mais il disait d'autres choses aussi, qu'il entendait dans la maison. Et on ne veut pas faire de nos enfants des perroquets. Il faut qu'ils comprennent la vérité. Il faut extraire donc du passage la vérité. Et ça, c'est le but d'un message. Le but d'un message, c'est de prendre un texte, et puis on explique le texte, on va illustrer le texte, et puis on va faire quoi ? Appliquer le texte à nos vies. Un bon sermon, il fait ça. Il va élargir le texte, il ne va pas faire autre chose, il va rester dans la Bible, mais il va l'expliquer, il va l'illustrer, il va l'appliquer. Et quelqu'un a dit que c'est un peu ce que fait une bonne question dans un catéchisme. Ça nous donne des mini-sermons, si vous voulez. On peut donner un sermon de 50 minutes, quelle est la fin principale de l'homme? Et là, vous avez le résumé dans une phrase, mais qui est tirée de plusieurs passages bibliques, mais qui demeure une vérité fondamentale, une vérité biblique. Donc, ce n'est pas la lecture elle-même de la Bible qui nous change s'il n'y a pas de compréhension derrière. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a des gens qui lisent avec le voile sur les yeux. Et ils ne sont pas changés. Ils ne sont pas changés. Nous sommes transformés, dit 2 Corinthiens 3, quand le voile est quoi ? Quand il est ôté et que nous voyons la gloire de Christ. Et en voyant la gloire et en comprenant ce que nous lisons, c'est alors que nous sommes transformés dans la même image. Paul a dit à Timothée, si vous êtes encore en 2 Timothée, vous pouvez le regarder, sinon je vous le lis, 2 Timothée 2,7, il lui donne plusieurs illustrations. Le royaume de Dieu est comme un fermier, il est comme un soldat qui part en... mais après il dit, verset 17, chapitre 2, verset 7, pardon, « Réfléchis bien à ce que je dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. » Il dit à Timothée, il faut réfléchir. Il n'y aura pas de bénéfice si tu ne réfléchis pas. Et nous vivons dans une époque où les gens n'aiment pas réfléchir. On veut des réponses toutes faites. C'est pour ça qu'on va sur Internet et... un de mes petits, j'espère en blaguant, m'a dit, il y a deux personnes qui connaissent tout. J'ai dit, ah oui, deux personnes, oui. Il y a Dieu et Siri, sur le portable. Donc on a dû expliquer que ce n'est que Dieu qui connaît tout. Mais un bon catéchisme nous donne la vérité dans de courts résumés. Il assiste nos pensées à pouvoir saisir la vérité et nous confronter à la vérité de la parole de Dieu. Et puis on le répète, et on le répète, et on le répète, et on le répète. Alors, je reviens pour terminer en Colossiens, et je veux lire juste la suite. Puis on a lu la fin de chapitre 1. Regardez les versets 1 et 2, donc du chapitre 2. Paul dit, je veux... En effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis, notez ceci, d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il dit, je prie qu'il soit enrichi d'une pleine quoi ? Intelligence. Je vais vous lire ça dans une autre traduction. À la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu. La certitude que donne la compréhension du mystère de Dieu. Et puis à la pleine connaissance de ce mystère, c'est-à-dire Christ. Ou écoutez encore ce verset dans la Bible en français courant. Il dit « Je prie que vous soyez enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. » Quand des choses sont floues dans nos pensées, on n'a pas la certitude. On a des jeunes, est-ce que Dieu a vraiment créé le monde? On est un peu flou. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Et plein d'autres questions. Personne n'est transformé par ce qu'elle ne connaît pas. Et je répète cette phrase. Personne n'est transformé par ce qu'elle ne connaît pas, et personne ne connaît vraiment ce qu'elle ne comprend pas. Est-ce que je comprends vraiment ma dépravation, le fait que je suis pécheur? Est-ce que je comprends la justification par la foi? Donc vous voyez, il faut faire plus que simplement lire le passage. Il faut une compréhension du passage. Et bien sûr, il faut plus que ça, il faut aussi croire. Romains 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc ces questions-réponses ne peuvent pas produire en elles-mêmes la foi. Mais ils servent à confronter le cœur jour après jour avec ces vérités fondamentales. En petit résumé, on n'a pas besoin de lire tout l'épître de Romains. On a dans une phrase des vérités fondamentales. Hébreux 3, 13 dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est un moyen de nous exhorter jour après jour. Donc quand cette connaissance de la parole de Dieu prend possession de moi, je change. Quand je comprends, quand je contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est alors que je suis transformé. Donc cet outil de questions-réponses, vérité fondamentale, peut vraiment être un outil qui nous aide dans nos familles, dans nos vies individuelles, hein, pour les célibataires, si nous l'utilisons, à nous confronter quotidiennement avec ces vérités, à réfléchir, à méditer, nous allons voir que ces vérités, puisqu'elles sont des vérités divines, hein, vont nous transformer par la suite. Voilà. Que Dieu nous aide à être fidèles à ce projet d'Église.
Ah, merci, je pense que c'est bien clair. Hein. Et on prie que Dieu fasse son œuvre. Que je suis bien encouragé par tout ce qui a été dit, hein, et motivé pour qu'on puisse le faire en tant qu'Église. Dans les classes aussi, on peut le faire avec le dimanche avec les enfants, les jeunes, mais surtout pour nous-mêmes et puis en famille, hein, aussi. Donc apprendre ces choses qui ne peuvent que nous aider. Alors, juste pour reprendre la première question qui est là, vous avez déjà dit pas mal de versets qui rappellent, qui évoquent cette fin, ce but, hein, la fin dans le sens de but, de finalité, hein, de la vie de l'homme, de rechercher de glorifier Dieu. Donc, 1 Corinthiens, j'aimerais juste rajouter quelques versets. 1 Corinthiens 10, 31. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'épître aux Corinthiens, et puis il dit ceci, Corinthiens 10, 31. Donc il dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc c'est c'est ici un peu une application. On peut dire, par exemple, que la fin principale de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Et que ça, ça reste quelque chose qui est vague dans notre esprit. Qu'est-ce que glorifier Dieu? Comment est-ce que je peux glorifier Dieu? Si c'est la fin, la finalité, comment je peux le faire aujourd'hui? Parce qu'il est dit, on a chanté tout à l'heure, hein, on a lu quelque part, hein, que Dieu, à Dieu soit la gloire dès maintenant et à jamais. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu maintenant? Est-ce que je peux ajouter quelque chose à un Dieu qui est glorieux, la Bible dit, bienheureux, qui est suffisant par lui-même? Et je crois que, par exemple, ce texte-là nous dit, hein, quand on lit, « Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. » Il est question de penser à ce que nous faisons, à ce que nous mangeons, à nos actions, à nos projets, à tout ce que nous ambitionnons de faire dans notre vie, et à voir si ces choses sont en adéquation avec la recherche de la gloire de Dieu. Est-ce que, en faisant telle ou telle chose, j'obéis à Dieu? Si je n'obéis pas à Dieu, je ne cherche pas sa gloire. Si je suis dans une situation où je fais quelque chose qui est contraire à ce que la parole m'enseigne, je ne cherche pas la gloire de Dieu. Je cherche mon bien-être, ma gloire, mais pas celle de Dieu. Et donc, quand nous disons que la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu, je crois que cela doit nous amener comme réflexion. Alors, on a ça pendant 15 jours, hein, peut-être comme réflexion pendant 15 jours, à penser à comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ma vie. Et je pensais hier soir à ce que Dieu reproche dans l'Épître aux Romains aux pécheurs. Hein. Il dit quoi? Il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et le péché qui est mis en évidence, c'est le fait de ne pas glorifier Dieu, de ne pas le reconnaître tel qu'il est, de ne pas agir en vertu de ce qu'il est, mais en vertu de ce que nous voulons, nous, pour nous-mêmes. Donc, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme pour commettre ce qui est contre nature, la Bible. Hein. Donc, les cœurs se sont soulevés contre Dieu. Et il dit, ils ont connu Dieu et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, comme il méritait de l'être. Et nous, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons aussi, tout en connaissant Dieu, agir d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, qui ne lui rend pas la place qu'il doit avoir, le rang qu'il doit avoir sur nos décisions. Et donc, nous ne le glorifions pas dans ce sens-là. Dans Daniel 5, 23, il était dit, « Tu n'as pas glorifié Dieu qui a dans sa main ton souffle. » Ça m'a fait réfléchir. Voilà, on prend des décisions, par exemple, et on oublie que notre souffle est dans la main de Dieu. On est, psaume 103, c'est ça, dit, hein, que l'homme et ses joues sont comme l'herbe, je crois, il dit, hein, un vent passe sur elle et voici, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne le reconnaît plus. Et on parlait de ça avec Kétia pour l'enterrement de son oncle. On dit, voilà, il était là il y a une semaine et là, il n'est plus. Et finalement, même dans la mémoire, parfois au bout d'un moment, le souvenir parfois s'estompe un tout petit peu. On finit, c'est-à-dire que les lieux que les gens occupaient, même dans nos mémoires, dans nos pensées, dans notre vie, ces lieux-là ne les reconnaissent plus. Et là, ici, dans Daniel, il dit... Tu n'as pas glorifié celui qui tient dans sa main ton souffle, c'est-à-dire qui peut l'enlever en une fraction de seconde. Tu fais des projets, tout un tas de choses, et tu oublies que Dieu peut prendre en une seconde ce souffle. Tu dois le glorifier. Tu dois donc organiser ta vie en tenant compte de celui qui décide finalement de toutes choses. Hein, la Bible dit, hein, que les projets que forme le cœur viennent des hommes, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc qu'est-ce que glorifier Dieu? Eh bien, c'est agir vraiment de manière à lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. C'est le reconnaître tel qu'il est, c'est le proclamer tel qu'il est. Et c'est refuser vraiment de faire quoi que ce soit qui soit contraire à sa volonté. quoi que ce soit qui soit contraire à sa volonté. Ici. Nous avons été créés, dit la Bible, pour la gloire de Dieu. Ésaïe 43, verset 7, ici. Nous avons été sauvés pour la gloire de Dieu. Plusieurs fois, nous avons ça dans Éphésiens. On ne va pas le lire, mais tout le premier chapitre d'Éphésiens, verset 6, verset 12 et verset 14, on peut au moins voir ces versets-là. Je vais vous le lire. Il dit ici, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. » Puis au verset 12, il dit que « En lui, nous sommes, 11 et 12, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. » Au verset 14, il dit aussi « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » On pourrait encore multiplier, mais on voit vraiment cette vérité qui traverse l'Écriture, que nous sommes créés pour la gloire de Dieu, premièrement, et nous sommes régénérés, rachetés, pour célébrer aussi la gloire de Dieu. Donc, on pourrait se poser la question, comment est-ce que la gloire de Dieu va-t-elle affecter notre vie de tous les jours? Et comment est-ce que je peux faire en sorte que cette recherche de la gloire de Dieu, le fait que ce soit lui qui soit en avant, que ce soit lui qui dirige toutes choses, puis comment ces choses peuvent se concrétiser dans tout ce que je fais? C'est une question qu'on doit se poser. Donc il est important d'apprendre cela, c'est vrai, mais il est important de se demander à Dieu par la grâce, sa force, pour nous aider à le pratiquer dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que je vais agir pour glorifier Dieu dans cette décision particulière dans laquelle je suis? Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela obéit à la parole de Dieu? Et puis juste, je vais terminer de lire le passage de Psaume 73 qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui parle de prendre son plaisir en Dieu, Psaume 73. Les versets 24. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Voilà. Donc, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il arrive parfois qu'on ait un Dieu qui soit uniquement dans le ciel. C'est-à-dire, quelqu'un m'a dit une fois, il y a un collègue, il m'a dit, « Mais pourquoi tu n'es pas syndiqué ?» Alors je lui ai dit, « Mais moi, j'ai un syndicat qui est puissant. » Et il m'a dit, mais moi aussi. Il dit, mais lui, ce syndicat, c'est pour le ciel. Mais sur la terre, quel est ton syndicat? Il dit, qui c'est qui va te défendre? Et le texte dit ici, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Donc le Dieu qu'on a, c'est Dieu aussi, bien sûr, qui est dans le ciel, mais qui s'occupe de tous les détails de notre vie sur la terre. Et en lui, vraiment, le chrétien doit prendre son plaisir. C'est la volonté de Dieu que l'enfant de Dieu trouve son plaisir en lui, dans sa parole. On l'a lu tout à l'heure, celui qui agit ainsi, eh bien, il est un homme, le psaume 1 le dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et là, médite jour et nuit. Alors, comment trouver vraiment notre plaisir en Dieu? La réponse, elle est là, c'est de méditer la parole jour et nuit. Donc, chaque matin, lire la parole de Dieu. C'est un combat, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Hein. Lire la parole de Dieu tous les jours, c'est un combat. Hein. Et on se rend compte de l'importance d'une chose quand c'est difficile de la faire. C'est pas difficile de pécher. Hein. C'est pas difficile de faire des choses très naturelles, je trouve. Ça va, on se laisse aller, ça va tout seul. Comme je dis à mes élèves souvent, je dis, c'est pas difficile de pas travailler. Moi aussi, je peux pas travailler. Hein. J'arrête là et je fais rien et ça va tout seul. Mais s'asseoir, travailler, réfléchir, ça demande des efforts. Hein. Et méditer la parole de Dieu, ça demande des efforts. Donc on peut prier Dieu pour qu'il nous aide chaque jour, vraiment que ce soit un engagement, méditer sa parole. Parce que c'est ainsi que nous pourrons trouver du plaisir en lui. La méditation régulière de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans ces choses. Alors je termine avec la question, quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Je vous écoute, moi j'ai la réponse sous les yeux. Hein. La principale fin de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Voilà, que le Seigneur nous aide à étayer ça encore davantage et à voir comment nous pouvons, ces choses peuvent être prises pratiquement dans notre vie. Je demande à Vincent s'il veut clore par la prière, s'il te plaît.